de musique, une émission proposée par Catherine Kaufmann-Saint-Martin. Jean-Pierre Canillac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à Toulouse. Très jeune, vous êtes attiré par la trompette. Vous entrez au conservatoire de Toulouse, de Versailles, puis de Paris, comme élève du maître Maurice André. Nommé professeur au Conservatoire national de région de Toulouse, vous vous lancez avec une équipe d'amis musiciens passionnés dans une grande aventure, la découverte de la musique ancienne et par conséquent des instruments anciens. Avec le tromboniste Jean-Pierre Mathieu, vous fondez en 1976, 34 ans déjà, l'ensemble de cuivres anciens de Toulouse, les Sacs-Boutiers. Jean-Pierre Mathieu troque alors son trombone contre une sac-boute et vous, vous abandonnez la trompette moderne pour le cornet à bouquin. Depuis, vous menez une double carrière pédagogique et musicale qui vous amène à enseigner au sein d'académies et de conservatoires en France et à l'étranger, mais aussi à être l'un des cornettistes, et non cornistes, les plus recherchés par les grands ensembles spécialisés dans la musique ancienne. Avant de parler des Sacs-Boutiers, j'aimerais que nos auditeurs comprennent à quel point nous avons la chance, à Toulouse, d'avoir un des musiciens les plus célèbres du monde de la musique ancienne et à quel miracle nous le devons. Je m'explique. Une excellente interview de vous sur le site classiquetoulouse.com m'a inspiré un petit poème que je vous offre. Jouant dans le jardin de son père, un jour, le malin petit Jean-Pierre soudain eut une révélation qui lui souffla sa vocation. Racontez-nous comment.
Oui, ça c'est... Moi, c'est tout à fait le début, c'est-à-dire que pour entrer au conservatoire à l'époque, il fallait déjà avoir fait au moins un an de solfège. Donc il fallait faire déjà de la musique avant de choisir un instrument. Et bon, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait, c'était pas passionnant évidemment, ça on peut s'en douter, bon, de faire de la musique sans instrument. Et au bout d'un an, donc il a fallu que je choisisse un instrument. Et auparavant, effectivement, mon père travaillait au cerf de la ville, c'est-à-dire maintenant ce qu'on appelle les espaces verts de la mairie de Toulouse. Et donc, il était responsable d'un grand jardin.
Qui est magnifique, qui est d'ailleurs, magnifique, à côté derrière du les Pont des Demoiselles.
C'est ça, qui existe toujours, d'ailleurs. Maintenant, ce sont les cerfs de la ville qui en sont emparés. Mais bon, là, c'était un jardin d'essai. Et dans ce jardin, donc, il était responsable de toutes les plantes, de tous les arbres qu'il y avait, etc. Donc, il avait une grande lance de pompiers pour arroser le soir, parce que, évidemment, l'arroseur automatique n'existait pas. Et cette lance de pompiers était avec l'embout en cuivre. Et moi, je m'amusais à sortir des sons, tel Roland de Roncevaux. Et bon, j'étais donc habitué à faire vibrer les lèvres, disons, dans un tuyau sonore. Et donc, quand il a fallu que je choisisse un instrument, ben c'est tout naturellement, quoi, disons. J'aimais bien le son de la trompette. J'avais déjà écouté Georges Jouvin à l'époque. J'aimais bien ce son-là. Et je savais en plus en tirer quelques sons. Et c'est comme ça que c'est venu, voilà.
Donc, j'aurais dû intituler cette émission de l'influence du tuyau d'arrosage c'est sur ça. L'histoire de la musique.
C'est pas très poétique, mais
si,
c'est comme
poétique.
Ça.
Si, c'est poétique. Thank you. Jean-Pierre Canillac, aujourd'hui Daniel Lassalle, qui est également tromboniste, professeur au Conservatoire de Toulouse et autres, a remplacé Jean-Pierre Mathieu à la Sacboute et assure avec vous la direction artistique des Sacboutiers. Avec l'organiste Yasuko Yamabouvard, que nous venons d'entendre dans cet extrait de El Fuego, vous formez le noyau dur de cet ensemble à géométrie variable. Pouvez-vous nous présenter les principaux musiciens qui constituent le plus souvent les Sacboutiers de Toulouse?
Mais les Sacboutiers, c'est... D'abord, il faut savoir que les Sacboutiers, ça vient du nom du joueur de l'instrument, qui est la Sacboute. La Sacboute, c'est l'ancêtre du trombone, puisque ça vient des deux verbes de vieux français, saquer et bouter, qui veulent dire tirer et pousser. C'est ce que fait le geste donc, de l'instrumentiste qui a donné le nom à l'instrument. Voilà. Donc... Principalement, c'est la Sacboute, dont Daniel Lassalle, c'est le protagoniste, disons. Et comme c'est un instrument grave, et ténor et basse, on a besoin, évidemment, dans un ensemble, d'avoir des instruments aigus. Et donc, c'est moi qui prends le rôle de l'instrument aigu, savoir le cornet à bouquin qu'on vient d'entendre dans cet extrait.
Alors, le cornet à bouquin est un instrument en cuivre.
Ben, c'est dans la famille des cuivres parce qu'on le joue donc au moyen d'un bouquin. C'est ce qui a donné le nom plus tard d'embouchure. Donc c'est que on peut dire que c'est un cornet à embouchure. Et c'est ce qui le classe dans la famille des cuivres puisque, comme tout le monde le sait, les cuivres, ce sont des instruments à embouchure. Mais par contre, sa particularité, c'est que il est en bois en fait. Il est taillé dans deux planches de bois. Collé et recouvert de cuir et pour l'étanchéité, et il s'apparente un peu à la flûte parce qu'on le joue avec 7 trous exactement comme la flûte, mais au moyen d'une embouchure. Voilà.
Et puis il a une forme un petit peu...
Il a gardé la forme de la corne, hein. Oui. Certainement du Moyen-Âge, on veut les bergers souffler déjà dans des cornes d'animaux, et on a gardé cette forme d'une part pour la tenue de l'instrument qui est un peu plus pratique que si c'était droit comme une flûte. Et bon, et surtout parce que l'instrument venait de la corne.
Ce n'est pas une corne de bouc.
Non, ça n'a rien à voir avec bouc ou bouquetin, comme je l'ai entendu souvent. Ça n'a rien à voir, non.
C'est la boca, bouche. Alors, outre la sacboute, qui est donc l'ancêtre du trombone, le cornet à bouquin dont vous jouez vous-même, l'orgue positif dont joue Yasuko Bouvard, vous adjoignez souvent d'autres instruments.
Bien sûr, ça c'est les instruments de base des sacboutiers, mais on s'adjoint des violons, des viols de gambe et surtout des chanteurs, et aussi des instruments de continuo comme le luth ou le théorbe.
Et puis Dulciane.
Dans certains répertoires espagnols notamment, on y ajoute donc la chalmie qui est l'ancêtre du hautbois et la Dulciane qui est l'ancêtre du basson. Parce qu'en Espagne, il y avait au XVIe siècle, il y avait un ensemble d'instruments avant qui s'appelait les ministriles, qui jouaient dans les cours et surtout dans les églises qui étaient dépourvues d'orgue, donc qui remplaçaient en fait l'orgue pour les cérémonies. Et c'était toujours le même genre d'instrument. Des fois, on y ajoutait une ou deux trompettes pour les grandes cérémonies, mais à la base, c'était cornet, chalmie, sacboute et dulciane.
Alors, il y a aussi beaucoup, souvent des percussions.
Voilà.
Nous avons à Toulouse la chance d'avoir tous ces musiciens
qui sont
enseignants au conservatoire à l'université. On a une vie très riche en matière de musique ancienne à Toulouse et en région Midi-Pyrénées. Tellement riche qu'en 2008, les Sacboutiers ont été nominés, comme on dit, aux victoires de la musique classique dans la catégorie ensemble de l'année. Et je vous propose maintenant d'écouter le final du morceau que vous avez alors interprété devant des millions de téléspectateurs, oui. La Negrina du disque El Fuego, édité par le label Ambroisie.
Se ve chavesca. Sa tu tempo, ama yo. Se ve diga ye.
Jean-Pierre Canillac, comme on vient de l'entendre, les Sacboutiers ne sont pas seulement un ensemble instrumental, puisqu'il y a souvent vous invitez souvent de très très belles voix à vous rejoindre. Là, nous venons d'entendre.
Oui, on vient d'entendre un quatuor de chanteurs, Adriana Fernandez, soprano, David Sagastum, alto, Luis Villamajo, ténor, et Ivan Garcia, basse.
Et Adriana est extrêmement présente dans vos enregistrements et dans vos concerts.
Dans nos programmes, oui.
Elle a une voix absolument magnifique, avec énormément de souplesse.
Parce que on a choisi Adriana parce que elle chante très bien, elle est très sympathique, mais en plus, c'est une voix qui correspond, disons, pratiquement au son du cornet, parce que il faut savoir que le cornet à bouquin, à l'époque, tous les gens qui ont écrit pour le cornet à bouquin disent que c'est l'instrument le plus adapté pour imiter la voix humaine. Et donc, effectivement, la voix humaine, bien sûr, mais quelle voix humaine ? C'est ça le problème. Et là, j'ai trouvé en Adriana un timbre, disons, qui serait plus facile à imiter avec le cornet que d'autres. Voilà. C'est surtout pour ça qu'on l'emploie.
C'est vrai qu'on sent une vibration tout à fait assortie totale harmonie, on peut le dire, entre la voix d'Adriana et votre cornet à bouquin. Alors, les Sacboutiers sont considérés par les spécialistes et le public comme une référence dans l'interprétation de la musique du XVIIe siècle, avec toutefois des incursions dans le XVIe.
Oui.
La musique italienne, allemande en particulier, mais aussi espagnole. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre répertoire de prédilection ?
Non, le répertoire de prédilection, c'est l'Italie au XVIIe siècle, début XVIIe, c'est-à-dire... Tous les compositeurs de cette époque ont écrit pour nos instruments à partir des Gabrielli et bien sûr Monteverdi surtout. Et donc toute une armada de compositeurs de cette époque-là, très importants, et des connus et des moins connus bien sûr, mais ont écrit des multitudes d'œuvres pour nos instruments. Donc la période de prédilection, elle part de là. Et c'est l'Italie qui a rayonné dans toute l'Europe pour exporter tous ces instruments, parce que beaucoup, beaucoup de compositeurs sont venus étudier en Italie, à Venise, au début du XVIIe siècle, avec Monteverdi en particulier, mais aussi avec Gabrielli, avec Giovanni Picchi, qui était un compositeur responsable de la Scuola San Rocco à Venise. Et donc, beaucoup, beaucoup de compositeurs comme Schütz, Scheidt, même Ortiz, même les Espagnols sont venus là pour voir ce qui se passait dans cette ville. Et donc, ils ont ramené chez eux tous les instruments qui étaient employés là.
Donc, Venise est vraiment, pour vous, le cœur, le berceau, ouais, de la musique que vous interprétez,
fait, ouais,
d'où qu'elle vienne après en Europe.
Tout à fait. D'ailleurs, on trouve dans toutes les compositions allemandes de cette époque-là des italianismes, on peut dire, dans leur composition.
Une grande influence.
Schütz, notamment.
Les Sagoutier collectionnent les plus hautes récompenses de la critique discographique, avec une vingtaine d'enregistrements tout de même. Et l'un de vos derniers disques est Le combat de Tancrède et Clorinde de Monteverdi, dont nous parlions. Je vais vous demander de nous situer un petit peu l'histoire avant qu'on passe à un extrait qui est en fait la fin.
Oui,
pratiquement.
Pas tout à fait la fin, c'est le troisième combat, c'est quand elle meurt, avant qu'elle demande le baptême. Bon, le combat de Tancrède et Clorinde, c'est l'histoire d'un chevalier catholique qui est un croisé et qui assiège la ville de Jérusalem, dans laquelle donc Clorinde défend sa ville, elle est musulmane. Et l'histoire ne dit pas comment, mais ils sont tombés amoureux. Dans une nuit, Tancrède assiège
la ville de Jérusalem.
De Jérusalem et Clorinde sort pour défendre sa ville. Et donc, elle met le feu à une tour des croisés. Et donc, Tancrède part à sa poursuite. Mais il ne la reconnaît pas. Parce qu'elle est habillée en chevalier, elle aussi, donc elle a un homme sur la tête et on ne la reconnaît pas. Donc il s'ensuit trois combats. Là, on va entendre le troisième combat, où Tancrède tue Clorinde sans le savoir. Et quand il lui enlève son homme, il découvre que c'est Clorinde, c'est la femme qu'il aime. Et donc là, bien sûr, c'est la stupeur. Et elle lui demande le baptême pour se convertir.
Jean-Pierre Canillac, on a entendu Furio Sanassi qui expliquait l'action, donc qui peut-être parle tout en chantant ou chante tout en parlant. Pouvez-vous m'expliquer?
Il faut savoir que dans le combat de Tancrède et Chlorine, le protagoniste, c'est Teste, c'est celui qui raconte l'histoire. Tancrède et Chlorine n'ont presque pas d'intervention à faire, c'est lui.
Bien qu'ils soient les héros.
C'est ça. Mais c'est lui qui raconte toute l'histoire. Dans un style qu'a voulu Monteverdi, qu'a inventé Monteverdi au début du XVIIe siècle, c'est une révolution dans l'histoire de la musique, le recitar cantando, qui veut dire le récit chanté. C'est-à-dire que c'est le texte qui donne le rythme à la musique. Et ça, c'est tout à fait nouveau, ça a donné la naissance de l'opéra. Puisque le premier opéra, c'est l'Orfeo en 1607, de Claudio Monteverdi, le même. Et donc lui, il adore ce style de récit chanté. C'est pour ça que on a l'impression, effectivement, d'un chanteur qui récite, voilà.
Et peut-être qu'il a influencé également Jean-Sébastien Bach après pour les Passions avec l'Évangéliste.
Bien sûr. Tous les grands compositeurs, Mozart aussi. Il y a des récits donc dans les opéras de Mozart et bien sûr dans Bach aussi. Ça a révolutionné l'histoire de la musique.
Mais Monteverdi a fait beaucoup de choses pour l'histoire de la musique et a également composé les Vêpres à la Vierge qui, je sais, vous tiennent à cœur et que vous donnerez le 24 juin en la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Alors moi, je vous ai déjà entendu diriger cette œuvre magnifiquement dans le cadre du Festival international Toulouse Les Orgues. Mais en juin prochain, ce sera un nouveau défi puisque vous dirigerez pour la première fois le chœur du Capitole de Toulouse.
Oui, on a voulu faire ça avec Alfonso Cagliani qui est le nouveau directeur du chœur du Capitole. Et Frédéric Chambert, bien sûr, qui est le directeur. C'est un défi pour. Mais j'espère qu'on va y arriver.
je n'en doute pas un instant.
Non, c'est surtout difficile parce que ce sont des gens, les choristes du Capitole professionnels, qui abordent ce répertoire pour la première fois. Donc, bien sûr, il y aura des problèmes à résoudre, mais ce sont de très belles voix, donc ils savent ce que c'est que le chant. Et donc, c'est les amener sur un style différent, voilà.
Et vous allez évidemment diriger l'orchestre des Sacboutiers au
oui,
grand complet.
Au grand complet, une trentaine d'instrumentistes.
Ouais. Avec ce grand chœur du Capitole, dans la cathédrale Saint-Étienne. Je crois que ça va être un grand moment de musique
à ne pas rater.
Vous avez déjà joué dans les Vêpres de Monteverdi vous-même comme cornettiste.
Oui, et puis
vous l'avez dirigé souvent également.
Oui,
donc c'est pas une nouveauté pour
c'est
vous,
pas une nouveauté,
mais c'est un gros morceau absolument passionnant. Ce disque que nous venons d'écouter, le combat de Tancrède et Chlorinde de Monteverdi, a été édité par la maison de disques Flora et on peut le trouver en allant sur le site des Sacboutiers, www.les-sacboutiers.com. Tout comme le disque suivant qui vient de sortir, qui s'appelle Clair-obscur dans le sillage du Caravage, où vous avez repris plusieurs compositeurs. Ce n'est pas une œuvre uniquement de Monteverdi.
Non, on a voulu faire en fait une espèce de tableau musical pour comparer les deux événements majeurs de ce début du XVIIe siècle, à savoir ce qu'on vient de dire, Claude Monteverdi invente le recitar cantando en musique, et le Caravage invente le clair-obscur, c'est-à-dire une technique de peinture révélant le maximum de contraste entre le clair et l'obscur, la lumière et les ombres. Voilà, ça, ce sont deux grands mouvements artistiques très importants. Et dans ce disque, on a voulu rejoindre un peu ce mouvement artistique en juxtaposant des auteurs de la même époque, mais d'une esthétique complètement différente.
Donc Monteverdi était plutôt vénitien, le Caravage a plutôt vécu à Rome.
Oui.
Vous avez pris plusieurs compositeurs, dont Dario Castello, dont nous allons écouter un extrait maintenant de ce disque, Le Clair Obscur. C'est la chanson Canzone 12. Ça signifie quoi exactement, Canzone?
Canzone, c'est dérivé de chanson, mais pour l'instrument. pour les instruments. Il n'y a pas de chanteur, il n'y a pas de paroles, mais on a gardé le titre de chanson. Les canzoni, c'est très réputé donc, au début du XVIIe siècle. Dario Castello, c'était le chef des instruments avant à Saint-Marc-de-Venise. Il était lui-même violoniste et cornettiste. C'est pour ça qu'on a choisi cette canzone.
Nous l'écoutons. Chers auditeurs, je vous signale que les Sacboutiers vous offrent un CD de ce magnifique clair-obscur dans le sillage du Caravage. Pour gagner, il suffit de téléphoner à Altitude FM au 05 61 71 90 90. Jean-Pierre Canillac, le prochain concert des Sacboutiers donneront à Toulouse et dans un registre tout à fait différent, très loin des Vêpres à la Vierge de Monteverdi et de Saint-Marc-de-Venise, puisqu'il est dédié à Rabelais et porte le titre plein de promesses de fait ce que voudra. Pour l'occasion, vous avez invité l'un des ensembles vocaux les plus réputés de la musique de la Renaissance, l'ensemble Clément Jeannequin, dirigé par Dominique Wyss.
Oui, tout à fait. C'est un projet qu'on avait depuis très longtemps et donc on a réussi à le faire. On vient de l'enregistrer et donc on est très content de pouvoir le donner donc, ici à Audi-Sud. Bien sûr, c'est un programme qui n'a rien à voir. C'est sur la musique de la Renaissance française. Disons que Rabelais a inventé une philosophie à travers l'abbaye de Thélème, et donc le titre, le sous-titre de ce concert, c'est Faille ce que voudras, ou l'abbaye de Thélème. C'est la doctrine de cette abbaye qui donne le titre de ce programme. Il est construit autour de récits. Donc de Rabelais, de tiré de Gargantua, qui depuis sa naissance jusqu'à l'abbaye de Thélème, raconte les péripéties de sa vie truculente et parsemée donc de chansons polyphoniques de la Renaissance, principalement de Jeannequin. On entendra deux pièces maîtresses de Jeannequin, La guerre et La chasse, là-dedans, mais il y a aussi du Sermisi. Beaucoup, beaucoup de petites chansons d'auteurs de la Renaissance.
C'est un spectacle réjouissant et rablaisien, évidemment.
Oui, tout à fait.
Je dis bien spectacle et non seulement concert, car moi je l'ai déjà vu et il faut absolument le voir. Il aura lieu le dimanche 21 mars à 18h à Audi Sud, à Blagnac, précédé d'une présentation que vous animerez avec Christian Chosy, suivi d'un bal Renaissance avec initiation à la chorégraphie de l'époque, et finira évidemment en ripaille à la brasserie d'Audi Sud. Vous nous avez apporté en avant-première et en exclusivité deux petits extraits, mais qui ne sont ni mixés, ni...
Oui, ils sont écoutables.
Ils sont écoutables, qui seront donc le prochain disque.
Voilà.
Mais je recommande
qui sortira en novembre.
Oui, je recommande surtout à nos auditeurs de venir voir ce spectacle qui est, d'où on sort complètement heureux du monde dans lequel il nous plonge.
On vient d'entendre une petite danse de Gabriel Bataille, qui est un auteur franco-flamand du début de la Renaissance française. Et c'était une petite pièce instrumentale qui s'appelait Quien quiere entrar conmigo en el barco. C'est parce qu'en fait, on a retrouvé dans ses œuvres, c'est un luthiste, il faut savoir, guitariste et luthiste, qui a écrit uniquement en tablature. Et on a retrouvé cette œuvre dans le palacio, c'est-à-dire en Espagne, les grands manuscrits de palacio, et donc il y avait cette œuvre. Et là, on va entendre une œuvre de Claude Lejeune, qui lui écrit vraiment pour les voix et les instruments en même temps. C'est Je bois à toi, mon compagnon.
Je bois à toi, mon compagnon.
Tire, 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 tire
Je bois à toi, mon compagnon, tout un programme pour retrouver les sacs boutiers à Audi Sud. Pour tous les renseignements, vous pouvez aller sur le site des sacs boutiers www.les-sacboutiers.com ou téléphoner à Audi Sud au 05 61 71 75 15. Jean-Pierre Canillac, je vous remercie vraiment pour toutes ces belles découvertes que vous nous offrez. Je sais que vous nous en préparez d'autres pour la rentrée. J'espère que vous viendrez en parler au micro d'Altitude FM. Au revoir.
Au revoir, merci.
Et je vous invite à rester avec moi, car après avoir visité Rome avec le Caravage en 1600, nous allons à la rencontre, à Rome toujours, en 1800, du peintre Mario et de sa bien-aimée, la chanteuse Tosca. Les airs de folie. Aujourd'hui, l'opéra dans la publicité avec la complicité d'Hubert Stocklin. Hubert Stocklin, bonjour.
Bonjour Catherine.
Alors, on ne vous représente plus, mais tout de même, je vais dévoiler une troisième facette de votre personnalité.
Ouh là là, attention !
Oui, je parle à un psychanalyste en plus, il faut que je fasse très attention. Vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, vous avez écrit un livre, et donc c'est une quatrième facette de votre personnalité, ça commence à devenir inquiétant.
Attention.
Vous êtes aussi passionné de musique, et particulièrement d'opéra, et en l'occurrence, vous écrivez pour des sites internet spécialisé de musique. Vous écrivez de très très belles critiques. Et il n'y a pas que l'opéra qui vous intéresse. Il y a également la musique baroque et beaucoup d'autres musiques.
En fait, pour rien vous cacher, à peu près toutes les musiques classiques.
Quand la musique est bonne. Et là, vous avez écrit sur le site classicnews.com, classique Q-U-E news.e.com, pardon, un très très bel article, une très belle critique de ce dernier disque des sacs boutiers dont nous venons de parler, qui s'appelle Le clair obscur dans le sillage du Caravage. Qu'est-ce qui vous a plu dans
ça? C'était un coup de cœur, ce disque, parce que il permet de comprendre quelque chose d'assez étrange pour et en même temps d'évident, c'est-à-dire que la valeur de la musique, c'est le chant, et que toute musique est mélodie, et que tout instrument, du moins à l'époque baroque, doit chanter. Et la sacboute et le cornet à bouquin sont deux instruments qui peuvent chanter aussi bien que la voix. Et dans ce disque, on le comprend parfaitement, puisque la cantatrice et les instrumentistes se répondent parfois comme s'ils parlaient tous les trois. Et il y a donc des moments absolument magiques dans ce disque où on ne sait plus si c'est le cornet à bouquin qui essaye d'imiter la sonorité de la voix ou la voix, celle du cornet à bouquin, et la sacboute également qui semble faire un commentaire en écho à la voix. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement poétique, et la référence au Caravage, qui est un peintre qui a ouvert la peinture à tout un tas de choses qui ne se faisaient pas avant lui, en particulier au niveau de l'ombre, il y a quelque chose de vraiment poétique dans ce disque.
C'est vrai que Jean-Pierre Canillac le dit, le cornet à bouquin est probablement l'instrument qui se rapproche le plus de la voix. Mais puisque vous parlez du Caravage, nous allons continuer dans notre chronique de l'opéra à la publicité à parler de peinture, puisque c'est l'histoire d'un peintre, Mario, et de son amoureuse, Tosca, qui est le sujet d'aujourd'hui. Alors cette musique sert pour une publicité. Donc vous allez
oui,
nous présenter.
Oui, alors là, ça fait partie de ces pubs qui poussent un peu le bouchon loin. Donc la scène est la suivante. La cantatrice de Floria Tosca est manipulée par un affreux personnage qui s'appelle Scarpia, qui veut tuer son amant et qui va lui demander en fait de lui livrer son corps. Hein. Il veut coucher avec Tosca en échange de la vie de son amoureux, et donc avant d'accepter ce marché infâme, elle va chanter un air qui est comme une parenthèse dans l'opéra, où elle se rappelle qu'elle a dédié sa vie à l'amour de l'art, qu'elle a fait tout un tas de sacrifices pour amener sa voix vers les sommets, et qu'elle ne peut pas comprendre comment la vie lui réserve ce sort affreux de devoir passer par cette abomination. Et le paradoxe de cette publicité, c'est que elle va reposer, elle va se servir de la douceur, de l'émotion de cette prière pour nous montrer une maîtresse donner avec amour une pâtée de luxe pour son chat. Comme si c'était le sommet de l'art d'aimer un chat que de lui offrir cette nourriture hors de prix.
Mais c'est peut-être un sommet de la cuisine est considéré comme un art maintenant. Ah, mais même
on n'a jamais eu de chat qui nous a dit ça. Mais bon, en tout cas, voilà, nous avons un air qui est parmi les plus voluptueux au niveau de la voix de soprano qui existe. Et on se sert de cette volupté, de cette imploration vers un ailleurs meilleur, pour montrer que le chat va adorer ce geste d'amour de sa maîtresse. Donc bon, il y a quelque chose là, vraiment, la publicité se sert de la musique ostensiblement.
Ce qui permet aussi aux personnes qui regardent la publicité de découvrir un des plus beaux airs d'opéra.
Ah, ça c'est vrai.
C'est un extrait de Tosca de Giacomo Puccini. Puccini est né en 1858 et mort en 1924. Tosca a été créé d'après une pièce de Victorien Sardou en 1900 à Rome. Le grand air que nous allons entendre s'appelle « Vici d'arte », « J'ai vécu d'art et j'ai vécu d'amour ». Et nous allons l'écouter avant que vous, Hubert, vous nous disiez quel en est l'interprète.
Donc nous avons entendu Vici d'arte et Vici d'amor, extrait de Tosca, chanté par la grande soprano Leontine Price. Leontine Price qui est une chanteuse des années 60-70 et début des années 80, qui a la particularité d'être une superbe femme de couleur, qui a été la première cantatrice à chanter sur la scène du Metropolitan Opera de New York en tant que cantatrice de couleur. Jusqu'à présent, ils étaient interdits de chanter au même rang que les autres chanteurs de race blanche. Et une prédécesseur, Marianne Anderson, avait déjà chanté des rôles de mezzo-soprano et de contralto. Elle chantait des rôles de sorcière, donc ça pouvait passer. Mais c'est là aussi où on voit que l'opéra a à voir avec la société. Et cette magnifique voix, quand même, qui est extrêmement corsée et fruitée, a enchanté le Metropolitan Opera à partir de 1960.
Elle a été tout à fait représentative de l'opéra italien en Amérique pendant
Elle a même été acclamée aussi à la Scala de Milan comme étant l'une des meilleures Aïda qui avait jamais été entendue. C'est un opéra de Verdi, très exigeant. Et donc, cet extrait fait partie d'un très beau disque qui est le premier disque qu'Elantine Price a enregistré pour RCA. Et il a été réédité avec une technique de super audio CD. Et je crois que 1960 est pour la cantatrice, en fait, l'année charnière. Elle a enregistré ce premier disque. Elle a chanté Aïda à la Scala de Milan. Elle a chanté pour la première fois au Metropolitan Opera de New York. Et puis après, elle a été la plus grande chanteuse des opéras de Verdi et de Puccini pendant, disons, au moins 15 ans.
Alors, au-delà du disque, il existe aussi un DVD qui a été fait d'après le film de Benoît Jacquot, qui a été fait en 2002. C'est très très rare que l'opéra soit bien filmé. C'est une réussite particulière puisque Benoît Jacquot mêle des images noir et blanc de l'enregistrement où l'on voit l'orchestre et les solistes et le chef. Et puis des images qui sont tournées dans les lieux magiques où se passe la véritable histoire de Tosca, c'est-à-dire l'église Saint-André de la Vallée où Mario peint au début, et puis le palais Farnèse où Scarpia a son bureau, c'est là qu'il fait son horrible chantage, et ensuite le château Saint-Ange où se déroule la fin tragique de l'histoire. Il n'y a pas que Leontine Price qui a été absolument remarquable dans ce rôle. Je crois qu'on peut,
en fait,
beaucoup d'autres sopranos
toute cantatrice soprano avec une voix large et capable de bien jouer a voulu chanter Tosca. Donc on peut dire que les immenses Tosca sont nombreuses, mais Leontine Price est l'une des plus belles au niveau vocal. Maria Callas est à nouveau elle, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui a marqué beaucoup le monde de l'opéra, a joué et chanté Tosca très très souvent, et son enregistrement intégral avec Tito Gobbi et Giuseppe Di Stefano est une version certes en mono, mais qui est toujours une des plus excitantes qui existe en termes de voix et de théâtre vocal à l'opéra, au disque.
Nous allons l'écouter pour terminer cette émission, mais je voulais tout de même préciser que dans le film et dans le DVD, c'est Madame Giorgiou qui chante et Mario est interprété par Roberto Alagna. Cher Hubert, nous allons nous dire au revoir en écoutant la voix sublimissime de Maria Callas, et on ne peut pas se lasser de ce « J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour ».
Et oui, vous pourrez choisir, cher auditeur, la cantatrice que vous préférez.
Merci,
au revoir.
À jeudi prochain. les médias fous de musique.